7h24. Vous comprenez qu'on surveille de près le niveau d'occupation dans les salles d'urgence au Québec, avec toujours en tête la COVID et est-ce qu'on va surcharger le réseau. On se souvient de l'expérience du printemps. Et on remarque, en tout cas pour Montréal, des taux très élevés actuellement. Je regardais, par exemple, Verdun, 150 %, l'hôpital juif, 134 %, le taux à l'urgence d'occupation. Et Maisonneuve-Rosemont, on était dans quoi? 150 % à un point tel que hier, ils ont cru bon d'aviser la population d'aller ailleurs, finalement. Docteur Martine Leblanc est directrice des services professionnels pour le CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Docteur Leblanc, bonjour.
Bon matin, Monsieur Arcand.
D'abord, ces taux-là de 130, 140, puis dans le cas de Maisonneuve-Rosemont, 150 %, on a déjà vu ça, mais qu'est-ce qui explique ça à ce moment-ci de l'année?
Effectivement, en plein été comme ça, ce sont des taux extrêmement élevés. Je vous dirais qu'il y a plusieurs éléments qui expliquent ça. On assiste vraiment à un achalandage très important dans nos salles d'urgence. Pas seulement des patients qui arrivent par ambulance, mais des patients ambulants qui sont passablement malades, qui ont besoin d'être gardés, d'être hospitalisés. Donc, c'est un des éléments là, qu'on constate au cours des dernières semaines qui est soutenu. L'autre phénomène qu'il faut comprendre, c'est que depuis la COVID, dans nos hôpitaux, puis un hôpital comme Maisonneuve-Rosemont qui est chroniquement très, très, très sollicité et qui avait des taux antérieurement d'occupation de plus de 100 % et qui faisait de la surcapacité dans les corridors de l'hôpital avec des civières qu'on installait un peu quand ça débordait trop. On ne fait plus ces choses-là. Donc, on a perdu notre capacité de hospitalière de l'ordre d'à peu près 10 %. On a aussi converti quelques chambres doubles en chambres simples pour mieux protéger nos clientèles très vulnérables. Ça fait en sorte que, disons, notre capacité d'accueil est un peu moindre que ce qu'elle était en pré-pandémie. L'autre phénomène qu'on a actuellement, comme vous le savez, étant donné là, tout ce qui s'est passé dans les CHSLD, la sortie des patients qui ont terminé leur parcours de courte durée se fait un peu plus lentement, du fait qu'on veut s'assurer qu'ils transitent par une zone tampon qui soit tout à fait correcte de pouvoir les retourner dans les milieux de vie. Donc, on est très prudent, ce qui fait en sorte que les patients en fin de parcours, en NSA, en niveau de soins alternatifs, demeurent plus longtemps que pré-pandémie dans nos lits de courte durée.
OK, je veux juste comprendre une couple de trucs. Là. D'abord, est-ce que ce que vous me dites, dans le fond, c'est qu'il y a des patients qui, normalement, auraient dû être retournés, exemple, CHSLD, qui sont gardés plus longtemps encore à l'hôpital?
Effectivement, actuellement, les sorties des patients de profil NSA se fait un peu plus lentement qu'en temps régulier.
C'est quoi, c'est un profil NSA?
Niveau de soins alternatifs. Ça, c'est quand le patient a fini son séjour de courte durée. Il est tagué, si vous voulez, NSA. Donc, il faut soit le diriger vers un milieu de réadaptation ou un milieu de vie autre, là, comme un CHSLD ou encore un retour dans une résidence.
Est-ce que c'est vrai que les patients doivent aussi passer deux tests de COVID à une semaine d'intervalle, ce qui fait qu'ils restent plus longtemps à l'hôpital?
Il y a certains critères, effectivement, pour les prélèvements. On doit les dépister puis s'assurer là, que le dernier test précédant la sortie là, soit bel et bien négatif, parce que vous comprenez qu'on va aiguiller ces personnes-là différemment en fonction des résultats. Actuellement, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pratiquement pas de cas de COVID. Pour vous donner un exemple, là, ce matin, à Maisonneuve-Rosemont, on a 3 cas de COVID positifs et à Santa Cabrini, on n'en a plus. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. On voit que les mesures fonctionnent bien puis on est très vigilants. Mais effectivement, il y a des dépistages multiples qui se font, là, même à l'admission des patients, on les dépiste tous.
Est-ce que vous m'avez dit au début qu'il y a des gens qui se présentent, donc, bien sûr en ambulance, mais d'autres qui arrivent à pied, là, enfin, ils entrent par la porte, là. Est-ce que ce sont des patients qui ont eu peur d'aller à l'urgence pendant la pandémie, pendant le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, puis qui, là, peut-être ont négligé des symptômes et se retrouvent à l'urgence?
Je pense que cette hypothèse-là est tout à fait plausible. C'est sûr qu'on peut pas toujours mesurer ça de façon très précise, vous pouvez bien imaginer. Mm-hmm. Mais il y a effectivement une recrudescence de gens qui pendant la pandémie n'ont pas utilisé le système de santé, si je peux me permettre de le dire ainsi. Je pense qu'on assiste à des gens qui sont relativement malades et qui ont peut-être pas eu là, accessibilité ou qui ont souhaité rester confinés par crainte d'attraper la COVID. Donc, cette recrudescence-là est en partie explicable parce que vous alléguez.
OK. L'autre chose, c'est que là, on vit une situation qui semble sous contrôle avec peu de cas nouveaux chaque jour. Les hospitalisations, autant au général qu'aux soins intensifs, je parle de la COVID, ça demeure donc sous contrôle. Mais qu'est-ce qui va se passer si jamais, par malheur, on a une deuxième vague, puis le nombre de cas à l'hôpital augmente si on a des taux d'occupation de 130 puis de 150?
Bien, vous savez, un peu comme dans la première vague, en fait, les préparatifs en vue d'une éventuelle deuxième vague ont été faits là, par les différents milieux. C'est sûr qu'on va délester certaines activités comme on l'a fait lors de la première vague, probablement pas de la même ampleur, probablement pas de la même façon, mais on va délester certaines activités qui devraient nous donner de la marge de manœuvre, advenant qu'il y a une recrudescence de cas COVID. Je vous dirais aussi que, bien qu'actuellement, on n'en voit pas, les choses, les gens se préparent et les plans d'action sont quand même faits, advenant là, qu'on devrait affronter une deuxième vague, qu'on espère qu'il ne sera pas de la même ampleur que la première, bien sûr.
Quand vous me dites délester, là, pour que les gens comprennent, ça veut dire, par exemple, retarder des chirurgies.
Par exemple, retarder des chirurgies, mais je vous dirais que on retarderait pas autant les chirurgies que ce qu'on a fait lors de la première vague, mais certaines activités ambulatoires qui, effectivement, se feraient beaucoup plus par télésoins, certaines activités comme, par exemple, l'endoscopie ou des choses comme ça qu'on diminuerait en termes de disponibilité d'accès.
Et probablement, vous me corrigerez, là, Maisonneuve-Rosemont, l'hôpital, l'urgence la plus occupée au Québec.
Bien, c'est une urgence très, très sollicitée. Et si vous savez, c'est un hôpital... en fait, l'ensemble de l'hôpital est très, très sollicité. En l'est de l'île de Montréal, on sait, là, il y a quand même une desserte populationnelle de près de 600 000 habitants. Donc, oui, c'est très occupé. C'est une urgence qui ne dérougit pas, à peu près jamais. Mais on a connu vraiment des taux d'achalandage là, extrêmement élevés. On a monté jusqu'à 170 là, au cours des dernières semaines, facilement, avec des demandes d'hospitalisation là, entre 30 et 50 demandes d'hospitalisation par jour. C'est beaucoup de monde à monter dans des lits, ça. C'est vraiment très, très occupé.
Je vais vous poser une question bizarre, mais j'ai un ami qui n'arrête pas de me répéter ça. Il y a la série très populaire 24-7 qui est tournée à Maisonneuve-Rosemont. On voit des médecins, du personnel de Maisonneuve-Rosemont. Il me dit, moi, un jour, si je suis malade, là, ils ont l'air tellement compétents et sympathiques, je vais aller à Maisonneuve-Rosemont. Est-ce que vous vivez ce type de phénomène-là, de gens qui ont vu la série puis qui vont chez vous?
Bien, c'est sûr que, bien, premièrement, je dois souligner qu'on a du bon personnel et on a d'excellents médecins. Donc, je pense que c'est tout à leur honneur que cette série-là reflète leur belle compétence. Je pense qu'il y a certainement eu un petit regain de popularité. Il y a des médecins vedettes qui suscitent beaucoup d'intérêt. Là. Vous connaissez le célèbre Dr Marquis, Dr Gagnon, Dr Zane, qui sont des médecins qui sont très, très, une belle visibilité à 24-7. Donc, est-ce que ça a augmenté la pression clinique sur notre hôpital? Je peux pas le prouver, mais je pense que c'est sûr que l'hôpital étant bien vu par la population, ben, il y a certainement un gain de popularité qui s'ensuit.
Parfait. Merci beaucoup, Dr Leblanc. Bonne journée.
Merci à vous.
Bonne Au revoir, Dr Martine Leblanc, directrice des services professionnels, donc le CIUS de l'Est de l'île de Montréal, qui comprend Maisonneuve-Rosemont. Je ne sais pas, ça ne peut pas se mesurer. Tu ne demandes pas à quelqu'un, j'arrive à l'urgence, est-ce que vous avez regardé l'émission 24-7? Sauf que ça projette une image tellement positive des gens qui travaillent à l'urgence que ça peut peut-être jouer jusqu'à un certain point en disant, ben, je vais aller là plutôt qu'ailleurs. Point d'interrogation. J'ai pas, évidemment, puis ça ne se mesure pas, mais intéressant. Mais ça veut dire qu'actuellement, c'est sûr que les urgences roulent à pleine capacité, ou presque. 7h33.